France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec une pionnière ce soir. Emmanuelle Piette est médecin, présidente du collectif féministe contre le viol et coprésidente de la commission santé du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Autant dire qu'elle est bien placée pour commenter l'actualité en ce 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. D'autant que cette semaine a été marquée par un événement qui fera date, la révision de la Constitution pour y inscrire la liberté de recourir à l'IVG. C'était lundi à Versailles où le Parlement était réuni en congrès pour l'occasion.
Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Le vote a été massif et salué par les féministes qui, comme notre invité, ont permis à des milliers de femmes d'y avoir recours à l'IVG. Emmanuelle Piette qui se bat également depuis toujours contre les violences faites aux femmes, mais aussi aux enfants. Le collectif féministe contre le viol s'occupe d'ailleurs de la ligne téléphonique mise en place pour la Civise, une ligne qui, à chaque témoignage, reçoit de nombreux appels. On en parlera là aussi. À 19h, ce sera le journal de Corinne Audouin. À 19h20, le téléphone sonne. Retour sur l'œuvre du mangaka Aki. Akira Toriyama, je vais y arriver, qui vient de mourir à l'âge de 68 ans. Ce sera l'occasion de se replonger dans l'univers de Dragon Ball et de comprendre les raisons de son immense succès. D'avance, merci à nos standardistes ainsi qu'à toute l'équipe du 18-20. Mathilde Texier à la préparation, Juliette Gou à la réalisation. Merci aussi à notre stagiaire Marie Kévin, ainsi qu'à Arnaud Caillé, Ludovic Asselot et Julien Dumont qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Emmanuelle Piette.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des droits pour lesquels vous vous battez depuis des lustres. En tant que médecin, en tant que féministe, présidente, je le disais, du collectif féministe contre le viol que vous présidez depuis 1992, vous avez été coordinatrice des centres de planification de la Seine-Saint-Denis, militante au planning familial. Vous êtes également coprésidente de la commission santé du HCE. Autant dire qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble jusqu'à 19h. Mais on va peut-être commencer par le 8 mars, puisque c'est une journée particulière, journée de manifestation. Vous étiez dans le cortège parisien cet après-midi.
Tout à fait.
Comme
il y avait
année.
plein de monde. Mais cette année, c'était vraiment chouette. Il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de monde, vraiment. Et c'était assez joyeux.
Et c'était quoi les slogans ?
Il y avait des moyens pour l'IVG, il y avait égalité salariale, il y avait des choses contre les violences, il y avait merci Judith Godrèche, c'était assez chouette quand même.
Alors vous avez écouté le journal de 18h, on a entendu un petit extrait de la Marseillaise chantée par Catherine Ringer qui a changé un petit peu les paroles, ça vous a inspiré quoi ?
Ah ça me fait très plaisir parce que moi le sang impur qui abreuve les sillons, je trouve ça vraiment dégoûtant. Hein. C'est guerrier, je trouve ça terrible.
Donc c'est plutôt une bonne initiative qu'a pris la chanteuse aujourd'hui. Alors, la grande affaire de la semaine, c'est évidemment l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Petit retour en arrière, donc lundi, à Versailles, pour l'occasion, le Parlement était réuni en congrès. À Paris, place du Trocadéro, des milliers de femmes ont suivi tout cela en direct sur un écran géant. C'est un reportage de Marion Ferrer.
Une foule qui a explosé de joie au moment de l'annonce du résultat par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Pour l'adoption, 780.
Derrière le Trocadéro, la Tour Eiffel s'est illuminée avec ce slogan affiché « Mon corps, mon choix, IVG, Constitution ». Un moment d'émotion pour toutes les femmes présentes devant l'écran géant.
Même si on se disait que c'était gagné, il fallait le voir pour le croire.
Une immense fierté, vraiment une immense fierté. Là, je suis fière.
Aujourd'hui, oui, on peut dire que c'est une fierté d'être française. C'est un combat qu'on a mené toutes et tous ensemble. Et c'est beau de voir ça aboutir enfin, donc ouais, beaucoup d'émotions.
On a fait pas mal de manifs, on a soutenu, on a supporté, donc ce soir on est contentes.
Dans cette foule, il y avait évidemment beaucoup de militantes, mais aussi des mères venues avec leurs filles, des mères qui ont eu, comme Marina, 64 ans, des difficultés pour accéder à l'IVG.
Oui, moi j'ai avorté aussi. Ouais. À ce moment-là, et ma mère aussi. Voilà, donc ça nous parle, quoi, sur des générations et des générations. Et je crois que là, c'est un joli pas qui est franchi. Je ne soutiens pas forcément ce gouvernement, mais là, je peux que lui dire bravo.
Et même si l'IVG est aujourd'hui garanti par la Constitution, il reste beaucoup à faire sur le terrain, comme le souligne Tania, 40 ans.
Il y a tout ce qui concerne les modalités pratiques de l'accès à l'IVG. Moi-même, j'ai eu le cas il y a plusieurs années et j'ai eu plusieurs médecins qui m'ont répondu « nous, on ne fait pas ça ». Donc ça a été assez compliqué dans une situation où j'étais plutôt en date limite, pas en mesure à ce moment-là d'accueillir un enfant. Ça a été très compliqué.
Des femmes qui l'assurent, cette révision de la Constitution est un premier pas, mais le combat va continuer.
Emmanuelle Piette, vous qui vous êtes battue toute votre vie pour le droit à l'avortement, à la contraception, que représente cette inscription dans la Constitution ? C'est symbolique ou c'est mieux?
C'est symbolique dans le monde. En tous les cas, être le premier pays qui constitutionnalise l'IVG, c'est important. Quand on voit la régression en Amérique et menacée en Argentine, enfin, on sent quand même que c'est toujours fragile. Dès que on a un État totalitaire, il s'attaque à l'IVG et aux droits des femmes en général. Donc, c'est important d'avoir ce modèle, peut-être, pour les autres pays. Ça, je crois que c'est très important. Inversement, pour nous, le manque de médecins, le manque de lieux, fait que quand même, ça peut encore être difficile pour un certain nombre de femmes. Et c'est dommage.
Oui, parce que la formule qui est dans la Constitution laisse le soin à la loi de définir les conditions dans lesquelles cette liberté doit s'exercer. Donc effectivement, ça laisse la porte ouverte à un manque de moyens ou pas. Hein, et c'est donc ça toute la question. Cet épisode de l'inscription du droit à l'avortement, de la liberté d'accès à l'IVG dans la Constitution, hein, a remis en mémoire le combat que ça avait représenté à l'époque. Vous, Emmanuelle Piette, vous avez connu l'époque où l'avortement était interdit. Remettez-nous ça en mémoire.
Alors, d'abord, moi, j'ai une copine, quand j'étais en quatrième, je crois, qui a été virée de l'école parce qu'elle était enceinte. C'est-à-dire, ça ne pouvait plus. Et elle a disparu du collège. C'était fini. C'était très impressionnant. Ensuite, j'ai eu une copine qui est morte d'un avortement septique quand j'étais plus grande. Donc, c'était quand même... Et puis, alors, à la fin, à l'hôpital, moi, j'ai assisté à la visite grand genre avec 40 médecins qui rentrent dans une chambre et le patron disant à la femme « si vous allez mourir de votre cancer, c'est aussi que vous avez fait beaucoup d'avortements ». Donc c'était vraiment punitif, on curetait les femmes sans les anesthésier, en les punissant. Et c'était vraiment... Moi j'ai travaillé avec une fille qui se faisait des avortements toute seule, elle était aide-soignante, elle avait piqué une sonde, et elle se la mettait toute seule, c'est déjà faut le faire, elle se la scotchait sur la cuisse, elle restait 3 jours à travailler, à un moment donné ça saignait, et elle disait, faut bien saigner, faut avoir bien mal, sans ça il te raccroche, et elle allait après à l'hôpital se faire cureter, et c'était vraiment épouvantable.
C'était une autre époque.
Complètement. J'ai retrouvé ça exactement pareil quand je suis allée faire des avortements en Roumanie en 90, c'est la même chose. Et du coup, les femmes s'abîmaient, parce que s'avorter toute seule avec des tas de choses dégueulasses, ça abîme. Et après, elles faisaient des fausses couches précoces, elles avaient du mal à faire. Et c'est vraiment dommage. Un pays qui veut beaucoup d'enfants, bizarrement, parce que franchement, on est beaucoup sur cette planète, eh ben, c'est quand même, il faut une bonne planification familiale et des avortements de qualité.
Voilà, alors aujourd'hui, il faut des moyens. Mmh. Il y en a aussi qui demandent la fin de la double clause de conscience. Alors vous êtes médecin, Emmanuelle Piette, qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je dis la clause de conscience, de toute façon, on l'a tous, hein, parce que on fait pas les trucs qu'on veut pas faire la plupart du temps, quand même. Et puis, mais par contre, je pense qu'un chef de service de maternité qui aurait la clause de conscience de l'IVG ne devrait pas être chef de service. Parce que si, dans une maternité où on fait de fait des avortements, des suivis de grossesse, on doit tout organiser bien. Et si on dit non, moi je fais pas ça, eh ben ça sera mal organisé, ça sera moche dans tout le service.
Voilà, ça
c'est regrettable.
Pas forcément la supprimer dans les textes, mais en tout cas ne pas mettre les personnes qui veulent la faire jouer à certains postes. Sachant que vous avez fait évoluer des textes, j'ai vu ça, sur le serment d'Hippocrate. Il paraît qu'autrefois le serment d'Hippocrate comprenait un engagement à ne pas donner de potions abortives.
Absolument.
Et que vous êtes battu avec d'autres pour supprimer cette clause.
C'est vrai. Le conseil de l'ordre.
Et que vous avez réussi.
Ouais. Oui, et puis aussi, moi je me suis beaucoup battue contre le Conseil de l'Ordre, parce qu'à l'époque, il était anti-contraception, anti-avortement, et puis, donc on ne payait pas nos cotisations, et du coup, on avait des interdictions d'exercer. Ça aussi, ça a disparu, si tu ne payes pas ta cotisation, tu as des amendes, tu es obligé de payer, mais on ne t'empêche pas de travailler.
Alors, il y a deux formes d'IVG, l'IVG médicamenteuse, de plus en plus répandue, et l'IVG instrumentale. Le gouvernement a décidé là, cette semaine d'assouplir le fameux décret qui encadrait très strictement la pratique par les sages-femmes. C'est une bonne chose.
Ah, très bien. Très bien, bien sûr, parce que les sages-femmes, elles sont tout à fait compétentes pour faire des avortements, et il n'y a aucune raison qu'elles soient encadrées comme ça.
Et sur la contraception, parce que vous avez évoqué ce sujet, il y a des choses à faire aussi de ce côté-là?
Ben, je crois, d'abord, il y aurait la nécessité de grandes campagnes sur la contraception. La dernière, je crois, date de 2013. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps qu'on n'a pas refait des campagnes sur la promotion de la contraception. Et il y a un énorme bashing contre l'ensemble des méthodes de contraception.
Mais de la part de qui?
Alors, sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Hein. Alors, c'est déguisé catho-écolo, donc c'est pas écologique de prendre la pilule. Si tu fais pipi, eh ben ça va faire mourir les poissons dans les rivières. Enfin, c'est des choses comme ça. Moi, j'ai des clientes qui m'ont dit trois fois ça dans la matinée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui traîne sur les réseaux. Et elles y croient. Et sur la nocivité, par exemple, de la pilule, ça n'arrête pas. Alors que c'est un truc extraordinaire parce que ça supprime les douleurs de règles, ça te fait des toutes petites règles, ça t'empêche d'être anémiée. C'est vraiment, pour les femmes qui ont mal au ventre, c'est un truc formidable. Et ça, on n'arrive même plus à le faire entendre. C'est considérer la contraception comme une charge, ce qui est quand même fou, quand on pense à quel point ça libère et ça permet de vivre tranquillement.
Voilà, et celle qui parle est quelqu'un qui a connu l'époque avant la contraception. Les choses évoluent, les mentalités aussi, on va continuer à en parler. Mais d'abord, on s'arrête sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Juliette Gou, pour commencer direction Versailles, puisque c'est donc là-bas qu'a été votée lundi la révision de la Constitution.
Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Adoption à une écrasante majorité sur presque tous les bancs de cet immense hémicycle. Gabriel Attal savoure ce rare moment de quasi-unité nationale.
Aujourd'hui, à travers votre vote, c'est la nation tout entière qui prend en main son destin et qui ose être le premier peuple au monde à graver dans son texte suprême la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Mais le Premier ministre oublie de citer celles qui ont pris l'initiative de ce projet au Parlement. Alors la députée LFI Mathilde Panot lui rafraîchit la mémoire.
C'est avec émotion et fierté que je me tiens devant vous alors que j'ai eu l'honneur d'initier le premier vote à l'Assemblée nationale. Je salue Mélanie Vogel qui a ouvert la voie au Sénat et toutes les parlementaires engagées dans ce combat.
L'hymne des femmes dans la salle du Congrès à Versailles. Non loin de là, dans la ville, un tout autre son de cloche du côté des anti-IVG.
On fait sonner le glas pour toutes ces femmes, puisqu'on ne parle pas assez aussi des conséquences.
C'est la rose du deuil pour les enfants.
Un vote historique sur l'avortement pour le Parlement, qui en revanche n'aura pas à se prononcer sur les 10 milliards d'euros de coupes budgétaires pour 2024, puisque cela se fera par décret. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a tout de même dû venir s'expliquer devant les deux assemblées cette semaine.
Il est légitime que l'État montre l'exemple, c'est tout simplement nécessaire.
Cette annulation de 10 milliards d'euros dans le budget moins de deux mois après la promulgation de la loi de finances m'interroge.
La députée LR Véronique Louwagie l'interpelle sur ces coupes mises sur le compte d'une croissance en berne. Elle voudrait bien savoir,
avec tout le respect que je vous dois, si vous avez agi comme des apprentis sorciers ou comme des autruches en mettant la tête dans le sable.
10 milliards d'économies en 2024, le double annoncé pour 2025. Pour la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, Bruno Le Maire, c'est...
C'est Robin des Bois à l'envers.
Les économies sont à chercher ailleurs.
Il y a 200 milliards chaque année qui sont donnés en aide sans contrepartie aux entreprises. C'est un tiers du budget de l'État.
Dans trois mois, les européennes, la tête de liste du RN, Jordan Bardella, a choisi Marseille pour lancer sa campagne.
Ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Et le grand effaceur, il s'appelle Emmanuel Macron.
Pardon, mais l'effacement, c'est le projet du Rassemblement national, l'affaiblissement de la France.
Elle, c'est Valérie Ayer, députée européenne Renew. Le camp macroniste a enfin sa tête de liste pour ce scrutin.
Jordan Bardella a couru sur les plateaux télé, mais en termes de résultats au Parlement européen, rien. Et en termes d'activité, rien.
Valérie Ayer, qui ne manque pas une occasion de rappeler qu'elle vient d'une famille d'agriculteurs. À ce propos, le Salon de l'agriculture a fermé ses portes après une édition qui restera dans les annales.
un salon spécial, bizarre. On espère qu'on va être entendu et qu'on ait gagné le cœur des Français.
On sent les gens un peu plus curieux. Ils nous demandent combien on est payé du litre de lait, quels produits on fait avec. Non, il y a quand même pas mal de questions, l'alimentation aussi.
Car on n'a pas fini de parler du prix des produits alimentaires. La collecte des Restos du Cœur l'a confirmé le week-end dernier.
Au bout de 35 ans, Coluche se retournerait parce que ça ne s'améliore pas.
On a du mal à avoir certains produits.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil, madame.
Une semaine en France, toujours en compagnie d'Emmanuelle Piette, médecin, présidente du collectif féministe contre le viol, militante pour les droits des femmes. Depuis toujours, une réaction à l'un ou l'autre de ces sujets, Emmanuelle Piette?
Moi, je pensais à la coupe budgétaire, 10 milliards, et aussi sur le budget minuscule du droit des femmes. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est déjà le plus petit budget de l'État, et si on nous enlève encore des sous, c'est vrai que c'est difficile, après, de continuer à aider les femmes.
Les associations ont besoin de, bien sûr, ont besoin de moyens sur le
bien
terrain.
Sûr. D'autant plus qu'on incite les personnes à parler, et que donc il y a de plus en plus de personnes qui parlent, et donc de plus en plus de personnes à aider.
Bien sûr. L'inscription donc de l'IVG dans la Constitution sera inscrite au bilan de la présidence d'Emmanuel Macron, tout comme l'accès à la PMA pour toutes les femmes. Mais il y a d'autres réformes sociétales qui promises qui se font attendre, par exemple sur la fin de vie. Ça patine, malgré des états généraux qui ont eu lieu il y a plus d'un an. Qu'en dit le médecin que vous êtes, Emmanuel Piette, de ce sujet? Il faut légiférer, il faut avancer.
Il va falloir y venir, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et je dirais, si en plus les soins de vie avaient des moyens, mais quand même, en ce moment, il n'y a pas les moyens pour les soins de fin de vie. Et c'est vrai que c'est important. Peut-être y aurait moins besoin d'euthanasie si on avait des soins de vie corrects, accompagnés dans des conditions potables.
Voilà, des soins palliatifs, il faut des médecins pour ça. Le manque de médecins, Emmanuelle Piette, la faute en partie à ce fameux numerus clausus qui a limité pendant des années le nombre de praticiens formés. Il se trouve que je crois que vous vous êtes opposée, vous, quand vous étiez...
Ah oui, tout à fait. J'ai été présidente pendant mes études, j'étais présidente du syndicat des étudiants en médecine de Paris, et on a fait des luttes incroyables pour lutter, et d'ailleurs on a gagné 3 ans de répit sur ce numerus clausus. Mais vraiment, c'est ce qu'on disait il y a 40 ans. On leur disait, limiter le nombre d'étudiants en médecine, ça coûtera parce qu'il n'y aura pas assez de médecins. Et ces politiques de l'époque, ils avaient comme idée que faut diminuer les dépenses de santé, il faut diminuer les médecins. Et c'est un contresens complet, parce que les gens ne sont pas soignés et ils arrivent très malades, et ça coûte beaucoup plus cher.
Et voilà, on en a la preuve aujourd'hui. Venons-en à la question des violences sexistes et sexuelles, à la lutte contre ces violences, qui est la grande cause du quinquennat, et même du précédent. Cette question des violences, c'est quelque chose qui vous a rattrapé dans l'exercice de votre métier,
tout à fait.
Quand les femmes se sont confiées à vous,
c'est
tout simplement, Emmanuelle Piette.
C'est ça. Très vite.
Quand elle venait en consultation.
Mais c'est-à-dire que c'était deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'est en 75. Et on était ravis, on pouvait donner la pilule enfin, on pouvait faire des avortements enfin. Et on voyait que les femmes étaient très... elle disait la pilule, ça me fait pousser ceci, ça me fait grossir, ça me fait maigrir. C'était pas si facile que ça. Et à ce moment-là, on a été plusieurs à penser que c'était autre chose qui se passait. C'est-à-dire qu'elles étaient toujours prêtes. Et c'était impossible de dire non. On voit bien à quel point c'est compliqué. Je rappelle que le viol conjugal, ça n'existe que depuis 1992 dans les textes de loi. Et donc, c'est ça qui était en question. C'était l'impossible. D'être toujours prête, c'était pas si marrant que ça. Avant, elle disait, je peux pas, on risque d'être enceinte, etc. Là, vas-y, tu prends la pilule, donc tu dois vouloir. Et petit à petit, on a compris ça et on a commencé à penser la violence.
Et ça veut dire que vous avez posé systématiquement la question des violences lors
Je pose la question
des
depuis 1976 systématiquement à toutes les personnes qui viennent me voir. Et pas qu'une fois, à chaque fois. Parce que les choses peuvent changer, en particulier pour les femmes enceintes. On dit qu'il faut poser une question une fois, mais c'est peut-être le coup d'après qui ne sera, sera pas agréable. Donc ça vaut le coup de le faire à chaque fois. C'est pas long, mais ça permet aux femmes d'abord de savoir que si elles ont un souci, elles peuvent parler. Et c'est comme ça qu'on dépiste.
Et c'est comme ça que des femmes viennent des années après vous remercier même, paraît-il.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Parce que vous leur avez ouvert les yeux sur ce qu'elle vivait.
Exactement. C'est d'avoir un soignant qui te dit, c'est pas du tout normal ce qui t'arrive. Il a pas le droit de te faire ça. Et non, tu n'es pas une gourde ni une idiote. Et non, tu n'es pas obligé d'avoir un rapport sexuel si tu veux pas. Et ben, ça permet de s'autoriser à le penser. Et pour certaines, ça suffit. Pour d'autres, ça sera plus long, plus difficile, mais quand même.
Il paraît que vous faites même des certificats de contre-indication au rapport sexuel.
Oui, c'est vrai.
Et comment c'est perçu ça?
Alors, c'est la première fois que j'ai fait ça, c'était une femme pour qui je réparais une épisiotomie assez moche, et elle était sur la table de gynéco, et comme je parle tout le temps, j'avais dit, mais faudrait pas trop de rapports là, c'est... Et la femme a dit, et c'était vraiment tout à fait en 75, et la femme a dit, si vous croyez que c'est moi qui décide. Alors j'ai eu un espèce de blanc, puis je lui ai dit, ben, si c'est pas vous, ça va être moi, et j'ai fait mon premier certificat de contre-indication à rapport sexuel. J'ai mis 15 jours, et la dame a dit, vous pourriez pas mettre plus. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et maintenant, j'en fais 3 par semaine. Parce que je pense que c'est contre-indiqué d'avoir des rapports sexuels quand on veut pas. Puis que dans certaines circonstances, les femmes, elles peuvent pas refuser, elles savent pas, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit. Et avec le certificat médical, quelquefois, ça les conforte. Et quand elles reviennent, eh ben, il y en a quand même un tiers qui dit, il a fait quand même. Et c'est là où on voit, c'est elles qui vont avancer. Elles vont dire, ils s'en foutent de ma santé. Et donc, ça va leur permettre de commencer à comprendre, c'est comment.
Et on en arrive à cette question du consentement qui est posée un petit peu partout aujourd'hui. Ouais. Un mot du collectif féministe contre le viol créé il y a presque 40 ans. Ouais. Dans quelles circonstances il a été créé, ce collectif ?
Alors, la loi sur le viol avait été acquise grâce à Gisèle Halimi et aux luttes de femmes en 1980. C'était une définition du viol. Le viol, ça a toujours été un crime, mais c'était une définition. Avant, c'était juste une pénétration sexuelle d'un homme dans une femme, un pénis dans un vagin, c'est tout. Et là, il y avait un élargissement, c'était tout acte de pénétration sexuelle, et puis c'était commis par menace, contrainte, violence ou surprise. Donc c'était quelque chose d'important. Et finalement, on s'était dit, bon, ben ça y est, on a une bonne loi, on se repose, quoi, comme souvent quand on lutte. Et puis, il s'est mis à y avoir des viols sur la voie publique en particulier. Une femme a été violée à la gare du Nord, je crois, devant 80 personnes qui l'ont même pas aidé à rien, ni pendant ni après pour s'enlever. Et il y a eu comme ça 4 ou 5 viols en réunion. Donc les associations féministes de l'époque, le Mouvement français pour le planning familial, Jeunes Femmes, la Solidarité Femmes, se sont réunis en collectif pour lutter et refaire. Et ça a correspondu au moment où Yvette Roudy, ministre des droits des femmes, première ministre des droits des femmes, avait envie de faire quelque chose sur le viol. Elle a demandé si on voulait tenir cette permanence téléphonique. Et donc, depuis 86, ça a été inauguré en mars 86, on a une permanence téléphonique, viol, femme, information, 0800 05 95 95.
On va remettre les numéros de téléphone sur la page de l'émission. Hein. C'est absolument, absolument essentiel, puisque cette ligne existe toujours. Ce que vous avez constaté, Emmanuel Piette, dès le départ, c'est qu'en fait, l'essentiel des viols ont lieu dans l'entourage. Hein.
D'abord, c'est 90% des personnes qu'on connaît qui violent. Et ensuite, c'était plus de 50%, entre 50 et 60% suivant les années, des viols commis dans l'enfance. Et donc, c'est pour ça que, quand la Civise a ouvert, j'ai proposé, qu'elle voulait faire cet appel à témoignage, j'ai proposé d'ouvrir une ligne téléphonique qui serait pour ces histoires-là, mais qui pourrait être entendue par les garçons, parce que on l'a appelé violence sexuelle dans l'enfance.
Donc il y a ces deux lignes qui évidemment continuent de tourner dans un contexte très particulier, parce qu'il y a MeToo aujourd'hui, une révolution dans toutes les strates de la société qui connaît des résistances, mais ça bouge. L'actrice Judith Godrèche a pris la parole dans les médias, puis au César, puis au Sénat, où elle a été auditionnée la semaine dernière. Elle demande des garde-fous pour les jeunes acteurs et on appelle à toute la société.
Je vous demande donc de m'aider à faire en sorte que les enfants et que les violences sexistes s'arrêtent dans mon milieu. Et comme vous l'avez dit, cette société, cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société. Cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour, 4500 aujourd'hui, de personnes qui, par ailleurs, avaient ancré leur espoir dans la présence du juge Durand à la tête de la Civise.
Voilà, Judith Godrèche qui s'inquiète du sort de la Civise sans le juge Durand, qui n'est plus à la tête de cette commission, indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont le sort même est incertain. Le juge Durand qui dénonce, lui, un manque de volonté politique dans ce dossier. On l'écoute, lui, il est au micro de Cécile de Kervas-Doué sur France Culture.
L'histoire de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, contre l'inceste, c'est l'histoire de la lutte contre le déni. Et ce déni, eh bien, il s'infiltre dans tout le fonctionnement social et dans celui des institutions. Quand un enfant révèle les violences sexuelles, dans 92% des cas, on ne le soutient pas. Et ça, ça s'organise. Ça ne se pose pas sur les épaules des individus de manière isolée. C'est une cohérence. Le repérage par le questionnement systématique, la formation des professionnels, la loi qui protège, la lutte contre l'impunité, les soins spécialisés du psychotraumatisme. Mais c'est d'abord une question de choix collectif. Qui voulons-nous protéger ?
Emmanuel Piette, vous, dont le collectif gère la fameuse ligne téléphonique de la Civise, vous vous inquiétez pour la suite des événements, pour ce... cette commission indépendante.
Ça faisait comme une petite musique. Taisez-vous, on vous a assez entendu, les victimes, on ne veut plus les entendre. Entre le discours du président de la République disant « arrêtez la chasse à l'homme » et puis la fermeture de la Civise, c'est comme si, bon, ça va les victimes, on a assez entendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu déjà, comme moi j'ai commencé, on a commencé en 85 à faire de la prévention dans les écoles, et il y avait eu énormément de choses. Il y avait des victimes d'inceste, Eva Thomas avait parlé à la télé, etc. C'était très, très, très engagé. Et puis, en 90, année, ils nous ont fait une grande cause, protection de l'enfance, et puis on a remis le chapeau dessus, et on a dit, ça suffit. Et après ça, il y a eu trop, et on ne pouvait plus entendre les enfants, on ne pouvait plus entendre les victimes. Il a fallu tous ces témoignages pour que ça recommence, et qu'on nous crée la Civise. Et puis là, c'est comme si, ah là, ça va, ça suffit, on les a assez entendus. Il y a une vraie nécessité d'avoir une lutte continue.
Et pourtant,
continue.
Il y a de plus en plus de prises de parole. Et maintenant, il y a MeToo Garçon aussi.
C'est ça, je pense qu'ils vont avoir plus de difficultés parce que les réseaux sociaux les MeToo, de tous les sens, MeToo Garçon, nous, on a 20% d'appels sur la ligne violence sexuelle en France qui sont des appels de garçons. Donc, vraiment, ça part de partout. Moi, il me manque un MeToo mannequin, parce que je pense que c'est dramatique dans ce milieu-là. Mais il y a un MeToo dans le sport.
Il y a un appel à un MeToo dans le monde de la littérature. Donc, on n'a pas fini, évidemment, d'en parler. On va y revenir, mais on va écouter d'abord peut-être le plus féministe des chanteurs avec un titre résolument anti-macho en ce 8 mars. C'est Henri Tachon. Les hommes, un titre qui date de 1975.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures, pissés debout, ça les rassure, les hommes. Sont leurs petits jets horizontales, leurs petits siphons, leurs deux babales, peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Sont leurs petits sceptres dans leurs culottes, leurs petits périscopes sous la flotte, sont le bâton et la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette, dans des gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leurs guéguerres, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, les hommes. Traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins d'une sorte de hors-cité, un homme. Ils aiment les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux, enfin quoi c'est pas comme nous, les hommes. Ils aiment les femmes à la folie, passives, muettes mais jolies, de préférence dans le lit, les hommes. Au babiroum ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, ils aiment les femmes sans espoir, les hommes.
prostituée ou Pénélope, apprivoisée ou antilope, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes sont abattus, les Tibétaines sont fricassées, les Africaines sont indignées, les Indiennes. Les hommes ont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux Châtelaines et le tablier à Mémène. Les hommes, excusez-moi, les hémocrates, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate. Les hommes, excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir de votre mafia, votre empire. Les hommes, à chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Henri Tachant, en 1994, un titre qui date de 75, Henri Tachant, qui nous a quitté l'été dernier, Manuel Piette. Vous la connaissez, cette chanson?
Non.
Elle est assez extraordinaire.
Ah ouais.
Hein. On dit merci à Djoubaka de nous l'avoir programmée. On va dire un petit mot de votre histoire à vous, Emmanuel Piette. Vous êtes né en 49.
Ouais.
Vous avez donc 75 ans ou
74.
Pas loin. À quel endroit vous avez grandi et que faisaient vos parents?
J'ai grandi en banlieue parisienne et mes parents étaient, mon père était marchand de sport, ma mère était à la maison, mais ils avaient été déportés tous les deux, ils avaient donc une grosse pension de résistants, donc ils n'étaient pas si obligés que ça de travailler. Et
voilà. Déportés parce que
résistants,
et qui s'étaient connus dans un sanatorium.
Ils s'étaient connus dans un sana qui avait été réquisitionné après la guerre parce que le sana avait été collabo, donc ils y avaient envoyé des déportés qui étaient tous tuberculeux et qui avaient entre 20 et 30 ans et qui avaient envie de s'éclater parce ça y est, ils étaient en liberté. Et donc je crois qu'ils ont vécu à ce moment-là une période assez joyeuse et ils se sont rencontrés à ce moment-là.
Vous êtes féministe depuis toujours, Madame
Piette.
Oui,
absolument. Et puis, avec une notion de... Mais ça, je crois que c'est les parents. Que si tu veux, si tu veux quelque chose, il faut te battre pour l'avoir, quoi.
Et c'est d'ailleurs cette cause féministe qui vous a conduit à faire médecine?
Oui, je n'ai fait médecine que parce que, à ce moment-là, les droits des femmes, c'était d'avoir le droit de s'éclater et pouvoir vivre sans être enceinte toutes les 5 minutes, quoi. Parce que quand même, moi j'ai une tante qui a eu 13 enfants, une autre qui en a eu 12, et c'était un côté de la famille un peu catho et tout, elles étaient enceintes tout le temps.
Et alors, on parle de ça depuis le début, les gens peuvent s'imaginer que vous êtes gynécologue, mais non, vous êtes médecin généraliste,
oui, oui, oui.
Emmanuel Piette.
Oui, oui.
Sauf que dans la réalité, quand on travaille dans des centres de planification...
Ça, oui. La santé publique et de la gynéco.
Aujourd'hui, vous êtes toujours vous êtes à la retraite, mais vous continuez dans les centres de planification.
Oui, c'est ça. J'ai des consultations dans les centres de planification et à la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Et vous faites de la formation, de l'information auprès du grand public, notamment des lycéens, des collégiens.
C'est ça. Alors, d'abord dans un centre de planification, il y a des missions d'information et d'éducation à la sexualité, comme on dit. Et puis il y a, ce matin, j'étais dans un cinéma municipal avec une classe de troisième. On a vu Dalva, qui est un magnifique film sur l'inceste. Et les gamins étaient très sensibilisés, très très intéressés.
Je voudrais juste citer ce que disait le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dont vous êtes membre, hein, puisque vous co-présidez la commission santé. Ce qu'il disait dans son 6e rapport annuel sur l'état du sexisme, c'était au mois de janvier, le sexisme commence à la maison, il continue à l'école et il explose en ligne. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire au niveau des plus jeunes, pour les plus jeunes.
Oui, Mais je dirais que la première information, c'est à la maison. Quand papa tape maman, on peut dire à l'école que ça se fait pas. Ça va être compliqué parce que c'est vécu dans la chair. Donc sur la transmission des violences, c'est vrai que la prévention, la première, c'est d'aider les femmes à ne pas être victimes. Et puis c'est la première prévention de toutes ces violences, c'est quand même de dépister les enfants petits.
Et c'est ce que vous faites dans les centres.
C'est ce qu'on a fait beaucoup en Seine-Saint-Denis. On avait une énorme campagne où on faisait de la prévention auprès des enfants de grandes sections de maternelle et de CM2. Et à l'époque, on faisait un signalement par classe. Donc ça veut dire que au moins on repérait un enfant. Et quand tu le repères à 5 ans, c'est mieux parce que ça s'arrête à 5 ans pour lui et il va grandir plus tranquille.
Vous faites de la formation à destination des plus jeunes, Emmanuel Piette, mais pas seulement. Je crois que vous formez aussi des professionnels,
les policiers, les magistrats, les médecins. Oui,
il y a tout un travail à faire.
C'est tout à fait important. On fait au collectif féministe contre le viol, il y a un gros volet formation. On fait de la formation depuis 40 ans aux policiers, aux magistrats, aux assistantes sociales, pour que l'accueil soit différent, vraiment, après longtemps de formation, je me dis, former des policiers à longueur de temps, c'est un tonneau des Danaïdes, parce qu'ils sont 300 000, on ne les formera pas tous, donc on a besoin de policiers spécialisés pour s'occuper des victimes.
Il y a un message qui nous arrive, là, qu'on nous apporte à l'instant. Émission fabuleuse, Madame Piette est une professionnelle extraordinaire avec qui j'ai travaillé il y a de nombreuses années sur les violences conjugales et familiales. C'est signé Victoria.
Hein. Donc, merci,
vous voyez,
Victoria.
Vous avez croisé beaucoup de gens qui vous sont reconnaissants aujourd'hui. On va peut-être donner les numéros de téléphone, ça me paraît indispensable avant de terminer cette émission. Il y a le numéro, donc, Viol Femmes Information, le 0800 05 95 95. Emmanuel Piette, c'est un numéro qui répond quoi
Tous les jours, de 10h à 19h en semaine. C'est pas un numéro d'urgence.
Mais c'est un numéro vert. Et puis donc, il y a deuxième numéro, celui pour les violences sexuelles dans l'enfance. Hein. Celui-ci, c'est le 0805 802 804. Hein. Avec beaucoup d'appels passés par des garçons.
Oui, 20%.
Depuis quelques temps.
Oui.
C'est important de le signaler. On me fait signe que c'est pratiquement terminé. Un grand merci à vous, Emmanuel Piette, d'être venu ce soir sur France Inter.
C'est moi qui vous remercie.
Merci mille fois.